Bonjour, 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 le son monte. Bonjour, bienvenue, ça y est, vous m'entendez bien? Bienvenue à Manosque, bienvenue sur cette place de l'hôtel Le Ville. On fête les 20 ans de ce très beau festival qui existe grâce à vous, bien sûr, parce que chaque année, quand on voit un public si nombreux, ça donne envie de continuer. Donc, tant que vous venez, on continue. Donc merci pour votre fidélité, un joyeux anniversaire donc à ce beau festival et un grand bravo et merci à toute l'équipe qui travaille pendant de longs mois pour que tout ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je suis très heureuse d'être sur cette place en compagnie de nos invités qui ont eu un tout petit peu de retard parce que leur TGV a eu du retard. Donc voilà, du coup elles arrivent tout fraîchement de Paris, c'est le cas de le dire, et elles sont très heureuses de redécouvrir l'été. Puisqu'a priori, il y avait quelques degrés d'écart. Donc, bienvenue à toutes les deux, Abnous Chalmani, Estelle Sarabul. Voilà, vous pouvez les accueillir chaleureusement. Elles sont bien là. Abnous, vous ouvriez de grands yeux en arrivant.
Oui. Non, mais c'est merveilleux. Moi, ça m'émeut toujours quand je vois des gens prêts se mobiliser pour lire. Et comme on entend à longueur d'année que plus personne ne lit, que la littérature, c'est foutu... Voilà, depuis début septembre, avec Estelle Saran et d'autres écrivains, on fait le tour des festivals et des librairies et c'est mais un plaisir. Et là, c'est particulièrement impressionnant.
Donc on est un peu intimidés. Donc vous allez nous soutenir. On a une petite heure ensemble, en votre compagnie, pour évoquer vos deux romans qu'on va se faire se croiser, se répondre. Vous avez chacune, évidemment, votre univers et votre écriture, mais il y a quelques points qui vous rassemblent, donc on va essayer de les faire se rencontrer. Pour vous présenter, avant de commencer cet échange, Abnous Chalmani, vous êtes née à Téhéran, 2 ans avant la révolution iranienne, que votre famille a fui pour la France en 1985. Vous avez suivi des études d'histoire avant de vous tourner vers le journalisme, la réalisation de courts-métrages. Vous avez écrit et beaucoup participé à de nombreux débats autour de la condition de la femme en Iran et notamment sur la question du voile qui est bien, bien complexe, le port du voile en France. Vous avez aussi signé un article intitulé « Pourquoi je ne suis plus féministe » qui était paru dans Marianne l'année dernière en 2017 et qui avait fait un peu débat aussi, un peu polémique. Excluant l'écriture inclusive comme une solution vers une meilleure égalité homme-femme, vous êtes devenu ainsi écrivain, auteur sans E, j'insiste sur le sans E, qui pourrait d'ailleurs s'écrire EUX, tant qu'à faire, auteur toute seule, et auteur donc d'un premier livre, pas un roman, intitulé « Romani, Sad et moi », qui est paru chez Grasset il y a 4 ans, dans lequel vous racontiez notamment, pas seulement, mais notamment, que vous vous baladiez les fesses à l'air dans l'Iran des années 80, au nez des femmes corbeaux, gardiennes de la morale, et à la barbe du chef en noir et blanc. C'est ainsi que vous le nommez. Aujourd'hui, vous êtes venu partager un moment avec nous autour de votre premier roman, donc deuxième livre, mais premier roman, « Les exilés meurent aussi d'amour », et c'est paru chez Grasset. Ce roman est porté par la voix d'une petite fille, Shirin. Elle a 8 ans à peu près quand le roman s'ouvre. Elle arrive d'Iran avec son père, sa mère et dans le ventre de celle-ci, le tout petit frère qui n'est pas encore né. La famille va s'installer à Paris, chez les tantes Mitra, Zizi et Tala, les sœurs de la maman, pour découvrir les joies, les peines, la peur, mais aussi le rire et l'amour qui font qu'un exilé ne se résume pas à son exil. Nous allons donc faire entrer ce roman en correspondance avec celui que signe Estelle Sarabul aux éditions Liana Levy, avec un titre qui vous aura sans doute retenu, « Là où les chiens aboient par la queue », déjà récompensé à Nancy par le prix Stanislas, donc bravo pour ce prix-là. Estelle, Sarah, vous avez de votre côté grandi en région parisienne à Créteil, entre un père guadeloupéen et une mère originaire du nord de la France, côté belge, sur la frontière.
En fait, le village est vraiment sur la frontière, c'est-à-dire qu'il est traversé, il y a un trottoir français et un trottoir belge.
Ah ben ça existe, c'est comme chez les Gaulois, quoi. Ouais. Vous écrivez depuis toujours, mais vous avez tout arrêté, notamment vos activités, donc, que vous me précisiez à l'instant, dans le milieu culturel, en tant que mécène culturel, pour vous consacrer entièrement à l'écriture. Et donc, ce très beau roman en découle. Là où les chiens aboient par la queue est un roman polyphonique dans lequel une jeune femme d'une trentaine d'années interroge et recueille la parole de ses deux tantes, Antoine, j'insiste sur le fait que c'est une femme, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Antoine et Lucinde, ainsi que celle de son père qui est surnommé Petit Frère. L'histoire de leur famille commence dans la Guadeloupe rurale de Morne-Galant dans les années 40 pour se prolonger dans la France contemporaine et les années toutes récentes. Ils racontent bien sûr l'exil, mais un exil un peu particulier, un exil intérieur puisqu'on reste au sein du territoire français. Il dit aussi la ruralité dans cette parcelle de France très isolée. Il évoque les émeutes indépendantistes de mai 67. Moi, j'ai découvert cette histoire-là, vous allez nous en parler. Et il dit, bien sûr, les choix, les déterminations, les renoncements, la complexité, la richesse que peut représenter un parcours fait de métissage, métissage de peau, métissage de langue et exil au milieu de tout ça. Un premier roman, donc, pour tous les deux, toutes les deux. Donc, on va peut-être commencer par cette question-là. Abnous, vous aviez déjà un éditeur, les éditions Grasset, pour votre essai ou votre récit. Pourquoi avoir eu envie d'un roman après le récit que vous aviez écrit? Qu'est-ce que ça vous a permis ou offert de plus, la fiction et le roman?
Mais c'est, en fait, c'est Roménie Sadé, moi, qui n'était pas prévu, puisque j'ai toujours voulu être écrivain, donc... Mais ce qui est très logique pour cette histoire d'écrivain, d'écriture inclusive, c'est qu'en plus, je viens d'un pays, l'Iran, où le masculin féminin n'existe pas. Exactement comme en Turquie. Et ça n'a pas donné des grands pays égalitaires entre mes femmes. Donc même si le langage influence énormément, pas au point de transformer des pays comme l'Iran et la Turquie en paradis des femmes. D'une part. D'autre part, c'est parce qu'il y a 8 ans, quand je suis arrivée en France, je suis littéralement tombée amoureuse de la langue française. Et je baragouinais un peu le français. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais écrivain français. Je ne vois aucune raison de changer d'avis maintenant que je suis devenue un écrivain français. Et Roménie Sadé, moi, c'était pas prévu. Enfin, je l'ai écrit parce que j'étais, mon oncle était à l'hôpital et que le voile revenait en France, qu'il y avait les menaces de mort sur Charlie Hebdo. Et j'ai écrit le premier en 3 mois parce qu'il fallait que je dise... fallait que je raconte et j'avais utilisé les anecdotes de mon enfance, comme j'avais cette particularité d'avoir fait Téhéran, Paris et de retrouver les barbus de mon enfance à Paris. Il y avait un lien, donc, mais à la base, l'idée était de toute façon de toujours écrire des romans. Et donc j'en ai écrit un certain nombre que j'ai jamais osé envoyer et qui étaient de toute façon pas aboutis parce qu'il y a quand même c'est long. Et celui-là, j'avais même pas envie d'écrire le premier sur l'exil. Comme quoi, à chaque fois, l'écriture, c'est toujours une vaste surprise pour l'écrivain. J'étais partie sur autre chose. Et ça fonctionnait pas. C'était trop historique. J'arrivais pas à fictionnaliser. Et puis, à un moment, c'est sorti tout seul. J'ai commencé avec la première phrase et j'ai écrit ça. Et quand je l'avais fini, il y avait une interview d'Azil Erdogan, l'écrivain turc, qui disait « un premier roman est toujours la somme des traumas ». Et je pense qu'il y a besoin, dans un premier roman, de quelque part se débarrasser de ces traumas pour après continuer à raconter des histoires. Mais voilà, et il y avait ça, il fallait que j'écrive mon roman de l'exil sans réduire les exilés à l'exil et en donnant une dimension romanesque, parce que les exilés aiment, détestent, ont des opinions politiques pourries, sont antisémites, homophobes, enfin ils sont à peu près comme des gens comme tous les autres. Et à un moment, il était question que le titre ne soit soit les exilés sont des salauds comme les autres, mais on s'est dit que c'est toujours plus joli avec amour.
Une toute petite anecdote que j'aimerais vous entendre raconter sur justement votre position par rapport à l'écriture inclusive. Il y a aussi ce souvenir-là que vous avez d'avoir découvert Émile Zola. Racontez-nous cet Émile Zola et quel rôle il a joué.
Oui, parce que mes parents ont choisi la France et mon père particulièrement parce que Victor Hugo, parce que tout le reste de la famille est parti aux États-Unis, en Allemagne. Il était hors de question pour mon père d'élever ses enfants tant qu'à les élever ailleurs qu'au pays de Victor Hugo. Donc moi, j'ai appris le français sur Les Misérables avec mon père tous les matins, chercher les mots dans le dictionnaire franco-persan. Et donc à partir de là, il y a une espèce de choc, j'aime la littérature française. Et mon père m'a donné Zola à lire vers 11-12 ans. Et je sais pas, j'ai trop vite regardé, je sais pas, peut-être j'avais absolument besoin que Zola soit une femme, mais moi j'ai lu Émilie Zola. Donc quand je voyais les photos, ce que je cherchais, je voyais ce barbu, puis je voyais à côté Jeanne, et je pensais que c'était Jeanne qui écrivait. Donc là, de 15-16 ans quand même, pour moi, Émile Zola était Émilie Zola. Donc je pense qu'à partir de là, tout a été perturbé, c'était pas homme-femme qui était important, puisque j'étais capable de transformer Zola en femme. Ce qui était important, c'est d'être écrivain, et ça... c'était quand même la certitude que écrivain était quelque chose à part, qu'il y avait un pays des écrivains quelque part, et que ça, ça abolissait toute forme de sexe, d'origine sociale, d'origine ethnique ou religieuse, et qu'il suffisait quelque part d'être écrivain pour être libre. Et je, voilà, ça aussi, enfin, je veux dire, c'est très long d'être contre l'écriture inclusive.
Oui, ça vient de loin. Ça vient donc, entre autres, d'Émile Zola, voilà, grand auteur français. Estelle Sarabulle, de votre côté aussi, il a toujours été question d'être écrivain. Je crois que votre rapport à l'écriture date de vraiment loin. Beaucoup d'auteurs, sans doute, ont compté, mais un parmi d'autres, Patrick Chamoiseau avec Texaco, en 92, prix Goncourt, donc auteur de La Martinique. Quel choc il a apporté avec son Texaco pour la jeune étudiante que vous étiez.
Alors en fait, je crois que le choc, ça a été un choc surtout dans la langue, puisqu'il écrivait comme parlait mon papa. Et ça m'a beaucoup marquée, puisque, en fait, moi, malheureusement, je ne parle pas le créole, puisque mon père, quand il a quitté la Guadeloupe, il s'est marié avec une dame, donc ma maman, qui vient du nord de la France, qui parle à la limite le patois du Borinage. Donc, il ne voyait pas l'intérêt de m'apprendre le créole, puisqu'il ne le parlait pas avec sa femme, on était en métropole, on était à Créteil. Voilà, donc, en revanche, lui, je l'entendais le parler tous les dimanches quand on appelait mon grand-père en Guadeloupe. Donc, à 8000 km de distance, il fallait aller vite, parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Et donc, il parlait créole avec mon grand-père, et ensuite, il me passait mon grand-père pour que je lui dise quelques mots. Moi, je ne parlais pas créole, mais en même temps, j'arrivais à baragouiner un petit peu et je sentais bien que mon grand-père me disait des choses avec beaucoup d'amour et de tendresse. Donc pour moi, ce créole que je ne parlais pas, c'était la langue de la tendresse et la langue quand même de l'épanouissement pour mon papa que je voyais parler différemment.
Qui se transformait dans ces moments-là.
Et donc, je lis Chamoiseau et je m'aperçois qu'en plus de cette langue qui, pour moi, voilà, me berce depuis l'enfance, on peut en faire quelque chose de très romanesque, de très poétique. Et finalement, ça m'a ouvert. J'étais déjà très, très attirée par la littérature, Victor Hugo aussi, d'ailleurs. Et puis je vois qu'on peut écrire aussi en créole et faire aussi beau et aussi fort que Victor Hugo. Donc ça a été pour moi, j'avais déjà la vingtaine, mais ça a été un peu comme une révélation.
Ça a ouvert les vannes.
Ça a ouvert des vannes.
Ça a ouvert les vannes. On est assis sur des textes de Victor Hugo. Hein. Dame Doucha m'a dit à tout de suite, c'est Victor Hugo. Voilà, nos sièges sont des livres de Victor Hugo. Le premier roman, ça fascine toujours, qu'on soit déjà écrivain ou pas encore, qu'on en rêve ou pas du tout. On se dit comment un jour, un texte dans un tiroir, sur un bureau, dans un ordinateur, devient un roman. Comment est-ce que le vôtre est devenu roman aux éditions Léana Lévy?
Alors, ça a été assez vite, un peu comme dit Abnous. J'ai ressenti une sorte... Une fois que ça a commencé, ça a été une sorte d'urgence. Je crois que mon envie d'écrire, c'est quelque chose de premier, avant même de raconter cette histoire-là. Mais pour un premier roman, finalement, autant aller au plus simple et à ce qu'on connaît le mieux. Donc du coup, quand je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire maintenant que je me donne l'autorisation d'écrire, autant écrire sur mon enfance, sur ses sensations. Donc comme le dit très bien Abnous, effectivement, on écrit avec la somme de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a traumatisés, de ce qui nous a marqués, sans que ce soit forcément malheureux. Et ça donne la matière du premier, en tout cas.
Et donc, vous l'avez envoyé par la poste? Ou bien envoyé c'est une rencontre?
Envoyé par la poste.
Donc, ça marche.
Romanissa Desmaux aussi, je l'ai envoyé à 5 éditeurs par la poste. 2 ont répondu. Donc oui, les éditeurs lisent vraiment les manuscrits. Ce n'est pas une légende. Je pensais que c'était une légende. Et sans dire de la part d'eux ou quoi que ce soit. Non. C'était par courrier. Donc merci la poste aussi.
De la part d'Émile Zola. Avec le soutien d'Émile Zola. En quelques phrases, qu'est-ce que vos éditeurs ou éditrices vous ont apporté? Est-ce que les livres que nous lisons aujourd'hui sont très très éloignés du texte que vous leur avez soumis? Est-ce qu'il y a eu vraiment de grosses modifications? Est-ce que ça vous a ouvert vraiment de nouveaux horizons? Ou est-ce qu'il a été question d'ajustements, mais sur des choses plutôt minimes? Abnous.
Il y a toujours question d'ajustements. Après, oui, tout dépend souvent de comment on écrit. C'est vrai que moi, j'ai écouté ce qu'on considère comme un peu un maître de la technique, qui est Stephen King. Et quand j'étais ado, il avait fait les 10 règles d'écriture, donc pas de radio, s'enfermer, éteindre le téléphone, blah. Et il y avait cette phrase, quel que soit le nombre de mots d'un livre, un roman, ça s'écrit en 3 mois. Ça faisait un peu challenge, je me dis, il a peut-être raison ce monsieur, en tout cas ça fonctionne pour lui. Et je me dis, pourquoi pas? Et donc, à partir de là, je me collais des limites de 3 mois. Et c'est ce que je fais, j'écris en 3 mois. Il y avait à peu près 150-170 pages de plus dans la première version. Et après, je taille.
D'accord.
D'accord. Et après, c'est vraiment, j'ai une forêt, et après, je vais regarder. Et c'est là où le métier d'éditeur a vraiment un sens. C'est que j'avais 5-6 personnages en plus. En fait, c'est un autre roman. Voilà. C'est, on découvre dans un roman un autre, voire 3 ou 4 autres romans. Et moi, j'ai une passion pour les personnages. J'adore aller chercher un personnage de sa naissance à sa mort en imaginant, tiens, quelqu'un qui aime les navets, qu'est-ce qu'il aime comme bouquin, où est-ce qu'il va. Donc ça, c'est, je me fais des listings de personnages. Et après, effectivement, lecture avec l'éditeur. Et après, remarque, là, c'est pas compréhensible. En plus, nous, on a cette particularité, c'est d'écrire aussi sur des choses inconnues. C'est-à-dire, autant on connaît à travers la colonisation, le Maghreb, etc., autant l'Iran, autant dans les pays anglo-saxons, on connaît très bien l'Iran, autant en France...
Les liens sont moins,
c'est quand
moins
même fort. Voilà, c'est quand même beaucoup beaucoup moins étudié. Donc il y avait aussi la lourdeur explicative qui peut être fatigant pour le lecteur, parce que le but c'est pas d'être didactique et d'expliquer voilà comment ça se passe en Iran, mais plus d'essayer de trouver les ponts. Donc là, c'est très utile d'avoir un éditeur. Donc voilà, moi ce qui a consisté, c'est surtout de couper des personnages et de les mettre en réserve pour d'autres romans. Mais un éditeur, c'est fabuleux parce qu'il a et le recul que vous n'avez pas. Et ce qui est étonnant, je ne sais pas si Estelle Sarah reçoit la même chose, c'est après le rendez-vous avec l'éditeur, au fait, on découvre des choses qu'on avait voulu dire, mais qui n'étaient pas évidentes. Donc, et en recommençant, on a l'impression qu'il n'y a pas le côté lourd de « Ah là, je dois recommencer ». C'est extrêmement motivant. Ouais, c'est vraiment, c'est merveilleux. Et quand ça se passe bien avec un éditeur, l'aller-retour est très... Parce qu'on écrit avec le ventre, on corrige avec la tête et on essaye de donner au lecteur avec du cœur. Mais à la base, on écrit avec le ventre. Et ce n'est pas toujours évident, l'instinct. Et pour moi, le passage avec l'éditeur, c'est le moment où c'est le côté cérébral qui rentre en jeu avant le côté émotionnel, sentimental, qui est là.
Que l'on retrouve ensuite avec les lecteurs. Estelle, de votre côté ?
Alors, moi, en fait, quand j'ai envoyé le manuscrit, je savais pertinemment qu'il n'était pas achevé. Mais vraiment, je me disais, soit ils vont accrocher parce que, de toute façon, l'histoire va les intéresser, soit tant pis, ils n'auront pas le temps de fouiller plus loin, mais je sais que ce n'est pas tout à fait abouti. Mais au stade où j'en étais arrivée, j'avais vraiment besoin d'un œil extérieur, aiguisé, professionnel, pour m'aider à franchir les derniers mètres. Et donc, du coup, quand je l'ai envoyé à Liana Lévy, ils m'ont d'abord appelé en me disant « Mais qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, dans cette histoire ?» Donc là, au téléphone, moi, j'étais déjà dans l'émotion qu'un éditeur m'appelle. Et là, il faut trouver une phrase pour essayer de l'accrocher et qu'il ne me raccroche pas au nez. Donc, on essaye, voilà. Voilà, je voudrais dire ça. Je voudrais parler des Antillais de deuxième génération qui sont nés en métropole. C'est pas tellement courant de parler de ça. Enfin, voilà, on essaye de dire un truc. Et là, l'éditrice, très gentiment, me dit, voilà, je comprends mieux ce que vous voulez dire, mais à la lecture de votre manuscrit, on ne le sent pas vraiment, ça. Donc, il va falloir le retravailler. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on le retravaille ensemble ? Et c'est exactement, moi, ce que je voulais entendre. Donc, c'était super, là encore. Un vrai travail d'éditeur, c'est ça, en fait. C'est d'aider l'écrivain à accoucher de sa propre œuvre. Et une fois qu'on a commencé à discuter, on s'est rencontrés et on en a parlé. Et ben un peu comme Abnous, on a élagué, supprimé des personnages, recentré le propos sur ce qui me semblait le plus important à dire. Et ça a été très très vite à partir de ce temps-là. Mais j'ai vraiment accepté très facilement et avec enthousiasme de changer, de couper des passages entiers pour me remettre à l'ouvrage, en écrire d'autres qui comblaient des manques et des questions. Donc c'est un travail vraiment d'accompagnement.
Et d'ajustement. Et donc on précise à cette occasion-là que le mot « edit », « to edit » en anglais veut dire « couper ». Donc c'est vraiment l'éditeur est là pour couper, élaguer, alléger et se rapprocher au plus possible de l'œuvre. Deux magnifiques titres, et j'aimerais bien qu'on passe une toute petite minute sur ces titres-là. Ils méritent qu'on leur accorde un petit moment. « Les exilés meurent aussi d'amour ». Abnous, ce titre, comme si vous vouliez lutter contre des idées reçues. « Les exilés meurent aussi d'autres choses ». Pour vous, c'était l'amour. C'était en contrepoint de quel autre mot ?
Oui, d'autant plus que à un moment, le personnage dit dans le roman « ne meurt jamais d'amour » et c'est bien dommage, mais on crève d'idéal et rarement tout seul. Donc en plus, je me contredis. Non, c'est vraiment, il y a deux effets secondaires avec l'exil. C'est d'abord, vous êtes réduit à l'exil. C'est où que vous alliez, c'est la question, c'est quelque part, raconte-moi ton exil. Comme si il n'y avait plus d'autres possibilités que d'être exilé. Et ça, c'est... Alors, pour moi, ça allait, j'avais 8 ans, donc quand... dans mes souvenirs personnels, quand on est petite, ça, on passe plus facilement à travers les gouttes. Mais je me souviens que c'était très difficile pour mes parents ou pour d'autres membres de la famille qui ont 37, 40 ans, voire plus 50 ans quand ils s'exilent. Tout d'un coup, tout ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire leurs émotions, leurs sentiments, leurs idéaux politiques, leurs idéaux tout court, est mis au second plan parce que bah, dans l'exil, vous n'êtes plus qu'un exilé. Donc je voulais absolument montrer autre chose. L'autre côté, c'est qu'un malgré l'exil, l'exilé continue à avoir une vraie vie qui ne se limite pas juste effectivement à chercher des papiers ou à lutter contre le racisme français. Il consiste surtout à continuer à être un individu. Et c'est très compliqué de ne pas être noyé dans son exil. Donc je voulais absolument donner au fait un livret dramatique aux exilés et qu'on sorte un peu... Parce que c'est vraiment, ils sont très méchants, mes exilés, aussi. Il y a un truc qui me fait toujours horreur et qui fait horreur à beaucoup de gens exilés que je connais, c'est une espèce de sanctification de l'exilé. Comme si parce qu'on était exilé, on était forcément des saints. Et je me souviens d'un ami de mon père qui avait un peu bu et qui s'énervait et qui disait « Mais j'ai envie d'être un salaud, mais laissez-moi être un salaud. Je ne veux pas être réduit à être un saint avec une race sous prétexte qu'on m'a foutu dehors de mon pays. » Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une manière que j'avais moins en transformant l'exil en épopée, en aventure romanesque, à humaniser au fait l'exilé. Et je pense que dans ce titre, ce que j'ai essayé de mettre, c'est au fait... Bah, l'exilé, il vous ressemble dans tout ce qu'il y a de bon et de mauvais. Et au final, des histoires de famille, mais ça, on se retrouve aussi. Hein, ce qu'on raconte, alors, c'est exil intérieur, exil extérieur. Mais il n'empêche, ce qui ressort, ce qui saute aux yeux quand vous lisez ou lirez nos livres, c'est le fait que c'est avant tout une histoire de famille, des histoires d'amour et des histoires... L'idéal, ça, j'ai déjà quelques lecteurs qui m'ont dit, ah, c'est au bout de 20-30 pages, on oublie que c'est des Iraniens. Mmh. Ouais, ça, c'est super.
Le but est atteint. Estelle Sarabulle, là où les chiens aboient par la queue, c'est en quelque sorte la traduction créole de Apetaouchnok. C'est ça qu'on dit Apetaouchnok en créole.
C'est ça, c'est la traduction littérale d'une expression créole qui désigne un lieu très très reculé, au diable Vauvert, ravitaillé par les corbeaux, Apetaouchnok. Donc quand quelqu'un vient comme ça d'un endroit très lointain dans la campagne, on dit là-bas, bah, il habite là où les chiens aboient par la queue.
Et en créole, ça fait
la chien qui a jappé paquet.
Voilà. C'est la chien qui a jappé paquet. Donc on le comprend à peu près. Donc voilà, ce titre-là qui vient dire qu'on va être dans cette ruralité un peu éloignée de la Guadeloupe que vous dépeignez. Donc deux romans familiaux. On l'a dit, l'exil, bien sûr, vous rassemble. On en dira quelques mots. Mais je ne veux pas qu'on centre la rencontre sur ce thème-là parce que vous dites bien plus que ça. Et donc on l'évoquera, mais je veux qu'on tourne sur d'autres questions. Roman de famille, bien sûr. On l'a vu, donc de différentes générations, des paroles qui sont recueillies, qui sont transmises. D'ailleurs, vos romans sont dédiés d'une part à vos parents, d'autre part à vos enfants, à votre mère. Donc on est dans la transmission, dans la verticalité de la transmission pour les générations d'après, pour les lecteurs d'après. Quelle connaissance aviez-vous de vos histoires familiales respectives ? Est-ce que l'écriture de ces romans ont été une entreprise d'aller découvrir un peu, déceler des secrets, des non-dits, ou est-ce qu'au contraire, vous avez baigné dans ces histoires, dans ces récits, et que tout était là pour devenir une matière à littérature ?
Ben moi, j'ai baigné dedans, contrairement à ma narratrice, la nièce, qui va à la pêche aux informations, questionne, enfin...
Oui, qui prend des notes.
Voilà,
elle prend des notes qu'elle ne montre pas,
voilà,
dans un premier temps.
Exactement. Moi, non, j'ai pas eu besoin de ça, parce que j'ai la chance d'être née dans une famille où la parole est assez libérée, où on parle beaucoup. J'ai même pas eu besoin de poser des questions, puisque à tous les repas, on parlait, justement... de la vie en Guadeloupe dans les années 40, 50, 60. Moi, je demandais par rapport à ici, qu'est-ce qui change ? Donc, on me parlait très facilement. J'avais même l'impression un petit peu que j'étais le réceptacle, peut-être parce que j'étais déjà la plus attentive à ça, peut-être plus que mon frère, par exemple, mais moi, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, spontanément, mes tantes, mes oncles, même mes cousins venaient me parler de ça. Et puis, en plus, moi, j'allais quand même en Guadeloupe tous les 2 ans, à peu près, en vacances, donc je pouvais aussi me rendre compte par moi-même, me faire ma propre idée, comparer avec ce que je voyais dans ma banlieue à Créteil, avec d'autres personnes aussi qui avaient fait l'inverse, qui étaient allées s'installer en Guadeloupe. Donc le matériau était là, j'ai pas eu à beaucoup chercher, je n'ai eu juste après qu'à le mettre en forme fictionnelle pour en faire un roman.
Tiens, on va en parler. De votre côté, Abnous ?
Non, moi j'ai forcé la porte. Il a fallu aller chercher. Oui, moi, on ne parle pas. Enfin, ce n'est pas tant qu'on ne parle pas, c'est que non, on ne parle pas. On ne parle pas. Et ben, après, moi-même, enfant, quand on ne me disait pas, soit j'écoutais aux portes, soit j'inventais. Et quelquefois, en inventant, je me suis rendu compte que ce n'était pas si éloigné de la réalité. Donc je crois que très jeune, il y avait quelque chose dans ma tête d'un pont entre la réalité et la fiction qui n'était pas si éloigné que ça. Parce que justement, quand les gens ne parlent pas, souvent, il y a quand même des expressions, deux, trois mots qui glissent. Et avec ces deux, trois mots, on peut à peu près reconstituer. Non, moi, j'ai beaucoup forcé, j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup fait pleurer aussi. Mais très rapidement, je suis allée demander, et là, qu'est-ce qui s'est passé. Après, comme il me manquait énormément, j'ai surtout énormément inventé. C'est que là où je pouvais, j'ai inventé. Mais là, pour ce roman particulièrement, c'est que j'ai voulu utiliser des contes soufis et des contes zoroastriens que, en Iran, malgré la révolution islamique, les gens continuent à... les expressions sont des expressions, les histoires qu'on raconte aux enfants sont encore des histoires zoroastriennes, des histoires des contes soufis. Et donc j'avais besoin, moi, d'aller me replonger dans ces tyrans-là. Mais seulement, je n'écris plus et je ne lis plus le persan. Donc je le parle encore, mais je ne le lis plus, je ne l'écris plus. Et là, mais gloire soit rendue aux traducteurs en France, parce qu'on a vraiment... une politique de traduction en France qui est incroyable, qui nous met le monde mais à nos pieds. Je crois qu'on ne s'en rend même pas compte tellement c'est incroyable. Et je suis allée chercher, j'ai découvert ma culture d'origine par la langue française, en allant lire le Livre des Rois, en allant lire tout ce que j'ai pu trouver traduit du persan en français. Et quelle fut ma surprise de découvrir que tout était traduit et extrêmement bien traduit. Donc il y avait plus, alors ce côté-là était extrêmement émouvant de retourner en Iran avec la langue française, mais après voilà, moi j'avais, ma mère a effectivement cinq sœurs et un frère, et même gamine, ce truc-là de beaucoup trop de femmes puissantes avec un homme au milieu, c'est un truc que je trouvais surprenant, donc je pense que dans tous mes livres il y aura une famille avec six femmes et un homme, je crois que ça va être une de mes obsessions, mais à part ça, effectivement, le reste, j'ai gardé des structures... Mais j'ai mélangé, c'est que j'ai pris deux, trois personnages réels et je les ai mariés, j'en ai fait une espèce de monstre dans lesquels à peu près, je me dis, tout le monde peut se reconnaître. Moi, en tant que lectrice, je me reconnais dans ce que j'appelle les personnages monstrueux parce qu'il y a plus d'ouverture pour se laisser tenter par eux que des personnages très réalistes où je trouve que c'est plus difficile de rentrer dedans. Donc ça, c'était le gros boulot, c'était de mélanger le réel pour avoir des personnages de fiction.
Vous l'évoquez et on le sent très très bien à les lectures et c'est vraiment un des points très intéressants et très forts de votre ouvrage, que vous nous offrez des glissements. On est entre le réel et l'imaginaire, entre le concret et le merveilleux ou la magie, on va y revenir. Mais un des tout premiers glissements que vous opérez, il est vraiment du point de vue de la narratrice, donc cette petite Chirine dont j'ai parlé en introduction, qui a 8 ou 9 ans. Le roman s'ouvre, on est à bord de l'avion qui transporte la famille et je vous lis ce passage et vous allez voir comment la petite narratrice s'empare de la parole. Ils quittent leur pays de naissance, le pays où ils ont vécu jusqu'alors. Ils partent en abandonnant presque tout et en espérant presque rien. Ils sont des exilés comme les autres, tourmentés par les mêmes questions, étouffés par les mêmes doutes, assommés par l'histoire. Nilo n'attend qu'une seule chose, retrouver ses trois sœurs, Mitra, Zizi et Tala, réfugiées à Paris. Siamak est déjà un fantôme qui déambule et se cogne contre les murs. Les tantes, l'oncle, le grand-père, sa femme et le destin. Chirine va retrouver son grand amour d'enfance, sa tante Tala. Nul ne sait encore rien du tout petit frère. Et personne dans cet avion n'ose se poser, ce jour-là, davantage de questions. Sinon, ils retourneraient dans le pays natal, à la banalité de leur vie, et oublieraient tout le reste. Le reste, à savoir la révolution islamiste, la guerre et leur défaite. Nous sommes en septembre 1981, et Téhéran est bombardé presque chaque soir. Je n'avais que 8 ans. Je portais le prénom d'une antique reine arménienne dépressive, certainement vierge, et mon visage était un point d'interrogation. Donc, cette entrée en narration, elle est très originale. Je voudrais vous entendre sur ce point-là, pourquoi la petite Chirine s'empare de la parole à la fin de cet épilogue. Et puis, ce visage en point d'interrogation en pose une deuxième. Pourquoi ne pas avoir précisé l'année exacte du déroulé de l'histoire? On a 1980, trois petits points. Ça peut être 85, 86, 87. Pourquoi cette imprécision?
Et justement parce que je voulais que dès les premières pages, on sache qu'on était dans la fiction. Et c'est les années 80, donc on se doute c'est 84, parce que c'est quand ils arrivent, les attentats commencent, qu'il y avait un pont avec aujourd'hui. Et je trouvais que mettre, au début j'avais mis les vraies dates, mais je trouvais que ça figeait énormément, et comme après il y a les élections présidentielles et la date est précisée, ni le nom des hommes politiques, mais on comprend qui ils sont, je trouvais que c'était garder ça dans un monde fictionnel, et que c'était important. Et moi je voulais absolument commencer ce livre par Il était une fois, mais je trouvais ça terrible, et en persan c'est un autre Il était une fois, c'est Yekibud, Yekinabud, Reiras, Rodo, Hishkinabud. C'est très joli en persan, et qui en français donne « Il y avait quelqu'un, il y avait personne, à part Dieu, il n'y avait personne ». Et commencer par ça, Marjane Satrapi, on m'a dit qu'elle l'avait déjà fait pour Poulet aux prunes, je m'en suis rappelée, donc c'était pas possible non plus. Et donc, du coup, je voulais absolument que ça soit d'abord, bon, parce que je voulais absolument que ça soit une femme qui prenne la parole et qui raconte. Et donc j'ai commencé au présent, parce que c'est l'exil se vit toujours au présent, puisque à l'heure où on parle, il y a des gens exilés, qu'avant-hier, avant-avant-hier, il y en avait encore. Donc l'exil est au présent, et au moment où elle dit le jeu, on passe au passé, elle commence à raconter. Je trouvais que c'était une jolie manière de dire que l'exil était toujours au présent et de marquer le fait que ma narratrice prenait la parole et n'allait plus la lâcher.
Plus jamais la lâcher. Une sorte de narratrice qui, d'ailleurs, dans la presse, a souvent été rapprochée de la petite Zazie de Raymond Queneau. Peut-être qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure. Encore un point sur l'organisation de votre texte qui se répartit en trois grandes phases, mais en tout cas deux sont très longues. L'an 1 de l'exil, donc la petite Chirine a environ 8 ou 9 ans, puis l'an 9 de l'exil, elle a environ 16-17 ans, et puis un épilogue plus court, l'an 30, donc là on est encore un petit peu plus loin. Pourquoi ces deux âges-là? Pourquoi 8, 9 ans et 17 ans?
Là, c'était deux choses. La première, c'est qu'effectivement, au moment où j'étais en train d'écrire, vous n'écrivez pas d'une manière linéaire. Enfin, moi, il y a plein de phrases qui me viennent et je les réutilise après. Et à un moment, la narratrice constatait qu'il suffisait de 3 ou 4 années dans la vie d'un homme pour la résumer. Pour résumer ses défaites, ses échecs, ses possibles. J'aimais bien cette idée-là que souvent, nos vies sont traversées par 2-3 années clés qui condense tout. Et ensuite, comme j'étais partie sur quand même du réalisme magique avec une narration à tiroir, je voulais absolument que la forme soit la plus simple possible pour qu'on ne s'y perde pas. Donc l'an 1 est important puisque c'est le début de l'exil, donc c'est la découverte, le dévoilement, mais on redécouvre sa famille, enfin c'est pour la gosse, c'est absolument perturbant. Et en gros, dans la première partie, elle va être armée, et dans la deuxième partie, 17 ans, c'est aussi l'âge de la maturité sexuelle, et ça provoque forcément les bouleversements hormonaux, là beaucoup plus d'action et beaucoup plus de danger, et je voulais marquer ces deux âges-là. Et puis Rimbaud, enfin c'est vrai qu'à 17 ans, c'est quand même un âge extrêmement
poétique,
important, et dans tout, pour tout le monde, fille comme garçon, j'ai toujours trouvé que dans 17 ans, c'est pas encore tout à fait les 18 ans, on n'est déjà plus une enfant, 17 ans c'est au moins la phase transitoire où ça y est, on va commencer à vraiment se définir et à commencer à voir les contours que nous aurons plus tard adultes. Et c'est surtout pour simplifier, donc j'ai
tranché.
Tranché comme ça, parce que sinon j'aurais pu... ça aurait été 200 pages de plus, ça aurait été trop.
Là, il aurait fallu encore couper. Estelle Sarabulle, votre roman, lui, est porté par 4 narrateurs différents. Je les annonçais dans l'introduction. Donc Antoine et Lucinde, les deux sœurs, petit frère et la nièce. Comment est-ce que vous avez équilibré ces voix? Comment elles s'adossent les unes aux autres?
Alors moi aussi j'avais envie que ce soit une femme forte qui porte le récit, donc le personnage principal qu'on va suivre comme ça sur 60 ans de vie, c'est Antoine, c'est la sœur aînée.
C'est un grand nombre de chapitres sont portés par elle, hein. C'est 19 voilà. Chapitres sur la totalité, donc c'est vraiment elle qui est très présente, et j'adore compter.
Donc effectivement c'est elle qui prend en main le récit et qu'on va suivre le plus. Cela dit, j'avais envie de faire parler d'autres personnages parce que l'exil, quand on quitte comme ça son île, on peut le vivre de façon très différente. C'est un peu comme le dit Abnous aussi. Et on peut le vivre très mal, ça peut être un drame. Voilà, on est arraché à sa culture, à ses racines, c'est difficile de s'intégrer à sa nouvelle société. Ou alors on peut le vivre plutôt bien, tout en gardant quand même une certaine nostalgie du pays ou de l'île d'origine, et puis quand même, bon an, mal an, s'intégrer et faire sa vie. Ou alors ça peut être même une libération. Et l'exil, ça peut être quelque chose de joyeux, parce que voilà, on arrive dans une nouvelle société où ce qui n'était pas possible peut devenir possible, où on va pouvoir s'affranchir de certaines traditions, etc. Donc j'avais besoin de faire parler plusieurs voix pour montrer ces différents états. Et montrer que l'histoire de Jean, qui a concerné quand même des dizaines de milliers de personnes en ce qui concerne les Antilles, puisqu'il y en a énormément qui sont venus dans les années 60 travailler en métropole, eh bien, ils n'ont pas tous vécu ce départ de la même façon. Et parfois même, un même événement peut être vécu différemment. C'est pour ça qu'on entend Antoine, et puis finalement, le petit frère dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et la petite sœur va amener aussi un autre regard. Donc voilà, je voulais garder cette pluralité des expériences.
La tante s'appelle Antoine. Ça me donne l'occasion de caser un mot que j'ai appris en faisant des recherches sur votre travail. Antoine, c'est un prénom épicène. Donc évidemment, vous savez ce que c'est. Moi, je ne savais pas. Voilà. Donc je le case pour montrer que maintenant, je sais. Donc c'est un prénom qui a la même orthographe, qu'il soit masculin ou féminin. Qu'est-ce que ce prénom, justement, dit de votre personnage ?
Alors déjà, aux Antilles, il faut savoir que les prénoms ne sont pas aussi fortement genrés qu'en métropole. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Antoine, ici ça nous paraît bizarre. Aux Antilles, ça va apparaître moins bizarre. Par exemple, j'ai une tante, une vraie tante, qui s'appelle Gilles. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai un oncle qui s'appelle Mirellette. Alors ici, ça n'existe même pas, je pense, ce prénom. Mais on pourrait penser par ses sonorités que ça a quelque chose de féminin, alors que pas du tout. Donc déjà, l'écart est moins grand quand on est là-bas. Ensuite, j'ai fait exprès de prendre ce prénom plutôt masculin, parce que pour moi, ça incarnait aussi cette force et cette autonomie qu'elle va avoir. Bien qu'elle soit tout à fait féminine, hein, elle ne se rêve pas en homme, c'est une femme, elle est très belle, elle a même un certain succès, même si elle, c'est des choses qui ne l'intéressent pas spécialement. Mais il y a cette force, je trouve, qu'on pouvait ressentir rien qu'avec son prénom.
Du coup, elle a non seulement ce prénom épicène, mais elle a ce nom de savane. Oui. Et ça aussi, c'est une particularité qu'on découvre dans votre roman. Son vrai nom, son premier nom, c'est Apollone. Et Antoine, c'est son nom de savane. Qu'est-ce que c'est un nom de savane ?
Alors, un nom de savane, ça, c'est encore un trait particulier aux Antilles. En fait, là-bas, vous avez votre prénom qu'on vous donne à l'état civil ou au baptême, très bien, comme ici. Et puis, on vous donne très rapidement un second prénom qui va être le prénom usuel. Qui est un prénom très affectif, hein, c'est très affectueux, il est choisi pour la personne. Et on dit aussi que ça permet au sort, à la malchance, d'un petit peu se tromper et d'éviter comme ça des mauvais coups du sort parce qu'on ne donne pas son vrai prénom. Mon père, par exemple, s'appelle civilement Éloi Édouard, c'est marqué sur sa carte d'identité. Et moi, vivant en métropole, j'ai appris très tard, j'avais déjà 10-12 ans, qu'il s'appelait comme ça puisque tout le monde l'appelle Pierrot. Qui est le médecin accoucheur, quand il est né, s'appelait Pierre, donc on l'a appelé Pierrot. Et c'est le nom que moi j'avais toujours entendu. Donc voilà, il y a un vrai prénom, et puis tous les Antillais, ça se perd peut-être un peu aujourd'hui, mais à l'époque de mon père, de mes grands-parents, tous les Antillais avaient un autre nom qui est le nom de savane.
Et c'est aussi, si j'ai bien compris, pour brouiller un peu les pistes, pour que les mauvais esprits ne sachent pas très bien, voilà,
c'est
moins la tentation de remporter l'enfant.
Ouais.
Vous avez dit que vous avez découvert très tard le prénom de votre père. Dans le roman, la nièce apparaît comme la nièce, hein, en tête des 5 chapitres qu'elle porte. Et on découvre assez tardivement aussi qu'elle s'appelle Eulalie, comme sa grand-mère. Pourquoi est-ce que vous avez gardé ce prénom secret ?
Parce que je voulais mettre plutôt en avant les 3 autres. Mais c'est vrai que petit frère non plus.
On n'a pas son prénom. Mais en tout cas, il est nommé prénom. Et il n'apparaît pas comme le père ou le frère. C'est petit frère avec des majuscules.
C'est vrai. Et aussi parce que je pense qu'on en parlait avec Abnous en arrivant. Il y a beaucoup de choses qu'on répète, qu'on fait comme nos parents et qui se répètent de génération en génération. Et je crois que ne pas donner de prénom ou redonner le même prénom d'une génération à une autre, c'est aussi montrer qu'on est là dans la fiction, dans des personnages, pour montrer un peu des comportements qui reviennent inlassablement. Ce qu'on trouve par exemple beaucoup dans « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez, où il y a Aureliano 1, Aureliano 2, enfin voilà, il y a plein de personnages qui ont les mêmes prénoms, et je crois que c'est surtout pour montrer un cycle, le cycle de la famille qui recommence avec des choses qu'on reproduit.
C'est une manière de rester discrète aussi, peut-être pour cette nièce qui est un peu en retrait,
oui,
dans cette
retrait
histoire.
C'est
le personnage qui peut-être vous ressemble le plus, mais finalement, elle est aussi un peu observatrice.
Ouais, tout à fait.
Et ça me fait un petit lien avec cette Chirine que vous avez fait exister magnifiquement dans ce roman, qui, elle, se cache sous le canapé. Vous avez 2 postes d'observation. Pourquoi est-ce qu'elle est sous le canapé, Chirine ?
Parce qu'il n'y a pas de place.
Parce qu'il n'y a pas de place dans cet appartement.
Ils s'installent dans 3x2 pièces dans un immeuble près de la Bastille. Et donc, ok, c'est bon. Et ils sont très nombreux, et du coup, la gosse n'a pas d'endroit. je le regarde, je peux, ça peut aller. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut s'isoler, et ces gens-là boivent définitivement trop de thé, donc les toilettes, c'est pas possible. La salle de bain, il fait trop froid, et puis il y a ces canapés un peu hauts. Et là, elle met des bonbons et son père lui file des carnets en lui disant « Décris ce que tu vois en français. » Elle ne voit absolument rien qui puisse se décrire en français. Et petit à petit, grâce à son dictionnaire, elle va commencer à maîtriser. Et qu'est-ce qu'elle peut décrire ? Puisqu'il y a les attentats et que sa famille étant des redoutables communistes, ils ont l'impression de continuer la révolution perdue au pays, en France. Donc il s'agit dans tous les sens. Et elle ne les a jamais vus comme ça. Et au fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais vu sa famille. Elle ne les connaît pas, puisque dans le pays d'origine, on est pris par le cycle du quotidien, des préjugés, etc. Donc là, tout d'un coup, l'exil, c'est la mise à nu. Donc elle les voit tels qu'ils sont, dans leur brutalité de stalinien, dans leur incapacité d'amour. Et sous ce canapé, ça lui donne comme un écran de télé ou un écran de cinéma dans lequel elle peut noter. Et c'est de là, pour moi, que vient déjà sa libération. C'est que déjà, en regardant sa famille dans sa réalité, elle va commencer une forme d'autocritique qui ne peut que l'amener vers la liberté, puisque il faut qu'elle se débarrasse des scories et familiaux et de l'Iran et du communisme. Ça fait beaucoup d'un même coup. Et comme c'est des méchants, méchants communistes, c'est pas des gentils communistes, c'est des staliniens purs et durs, très, très méchants. Et donc, tout le monde est très, très méchant, mais il faut qu'elle se débarrasse de ça. Et je trouvais que c'était... Un gosse a quand même besoin d'être isolé, je pense. Et le fait de passer d'un Iran dans des grandes maisons et des jardins et d'une vie faite d'imaginaire, de nature, à Paris, l'urbanité et tout... Il faut s'échapper autrement, elle s'échappe par la lucarne qu'elle se crée. Donc elle se crée son écran de cinéma dans lequel elle projette les nouveaux personnages qu'elle découvre être ses tantes et ses parents.
On va revenir sur ce cinéma qui joue aussi un rôle.
Je trouvais ça assez amusant en lisant le livre d'Estelle Sarras sur ce qu'elle disait sur les préjugés et sur le mauvais œil et tout. Et ça m'amusait vraiment beaucoup, parce que c'est quelque chose qui s'est perdu, j'allais dire, en métropole, en France. C'est vrai qu'on est en Iran, on est absolument obsédé par le mauvais œil, et j'y riais beaucoup sur les prénoms. Et c'est vrai, ça, c'est quelque chose qu'un exil peut rendre, qui est vraiment quelque chose de très positif dans l'exil. C'est que c'est quand même une chance de vous débarrasser de préjugés duquel vous ne seriez certainement jamais débarrassé en restant au pays natal. C'est que forcément ça crée une distance, donc une forme de critique, et aujourd'hui ça peut nous faire rire, mais sachant qu'il y a des gens qui, sur place, du fait du mauvais œil, du qu'en dira-t-on, de l'obsession du mauvais coup, passent vraiment des vies de misère obsédés par ça. Faut pas dire aux voisins ci, faut pas dire ça, parce que le mauvais œil est sur toi. C'est très obsédant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi depuis toujours j'en ris, mais quand j'ai des cousines qui débarquent d'Iran, je trouve ça hyper triste quelque part, enfin, parce que c'est pas possible d'avoir une respiration, puisque tout le monde pense ça. Et c'est vrai que j'allais dire, l'exil ne peut être que joyeux à partir du moment où vous décidez que c'est la chance de vivre d'autres vies que la vôtre, et que ça permet une ouverture merveilleuse. Mais je trouvais ça très amusant d'avoir cette obsession du mauvais œil, du mauvais sort. C'est fou.
Qui vous rassemble aussi. Parmi les échappées possibles, il y a les échappées de la langue, puisqu'évidemment, comme beaucoup d'exilés, la confrontation à la langue du pays dans lequel on arrive se pose. Je vais lire ce passage qui concerne la langue française, donc que la famille est contrainte d'apprendre aussi, bien sûr, et pour vous entendre aussi, Abnous, sur ce sujet-là. Comme tous les exilés, j'apprenais le français avec acharnement. Je cherchais les mots dans le dictionnaire, je fouillais les phrases à la recherche d'une familiarité, et rien ne me faisait davantage plaisir que de reconnaître au moins un mot dans une obscure définition. C'est la raison pour laquelle la majorité des exilés parlent un français anachronique. Ils tentent si fort de comprendre ce qui se dit dans le nouveau pays, ils sont tellement à l'affût de précisions et d'outils pour se faire entendre, qu'ils prennent les mots pour argent comptant. Ils les accumulent, ceux qui servent et ceux que tout le monde a oubliés. Les mots qui disent les métiers d'antan comme ceux qui décrivent un point de couture. Ils se rendent compte beaucoup plus tard que leur français impeccable, leurs mots justes, leur grammaire précise, ne sont qu'un signe supplémentaire de leur exil. Les exilés vivent à contre-temps. La langue qu'ils parlent est une langue apprise, une langue domptée, une langue morte. Ils ne parlent pas le français d'aujourd'hui, mais celui d'avant-hier. Un très beau passage sur la langue. Donc nous dire cette sensation et cette place que vous vouliez vraiment préciser sur ce rapport à la langue qui, évidemment, sous-tend tout le roman.
Et je pense que oui, c'est vraiment quelque chose d'exilé que moi j'ai remarqué. C'est vrai qu'on veut on veut se faire aimer, on veut désespérément de se faire aimer, c'est de communiquer, c'est de parler. Donc le fait d'acquérir la langue française, c'est très important. Et c'est vrai que, bon, après moi, j'allais dire, je compte pas, parce que je suis arrivée à 8 ans, je suis allée à l'école, donc entre guillemets, c'était plus facile, et un cerveau d'un enfant de 8 ans, c'est merveilleusement élastique, on peut tout rentrer dedans, d'autant plus une langue. Mais ce passage-là m'est venu, parce que de toute façon, c'était une obsession, la langue, parce que je suis tombée amoureuse de la langue française, mais m'était venu, j'ai un cousin d'Iran qui est venu faire ses études ici à 20 ans, qui aujourd'hui a plus de 40 ans, et qui est professeur-chercheur au Collège de France en droit. Et il se plaint son temps depuis 20 ans à se plaindre que les Français ne savent plus parler français. Et c'est vrai qu'il parle un français, mais impayable. Et je dis, mais tu te rends compte, le français que tu parles, plus personne ne le parle. Et lui, il l'a appris en Iran dans les livres. Donc il est arrivé, il parlait comme Flaubert, avec des phrases interminables. Il écrit un courriel, c'est impossible. Je dis, mais non, il faut... Et il râlait, et dans le cadre du Collège de France, on l'avait envoyé au Mali pour bosser sur la Constitution. Enfin, ils font des choses comme ça, ça a l'air passionnant. Et là, il revient, mais radieux, en disant, ça y est, j'ai enfin trouvé des gens qui parlent français. C'était des Maliens. Et c'est vraiment étonnant parce que lui est capable de tenir à peu près une conversation en latin. Et la seule personne qu'il a trouvé capable de ça, c'est au Mali. C'est un professeur-chercheur malien qui... Et ils se sont éclatés. Et ils ont passé leur temps à s'envoyer des colibés en latin et à parler français. Et donc, il me raconte ça il y a 3-4 ans. Je fais, ah ouais, ouais, définitivement, il y a quand même quelque chose avec la langue. Et c'est complètement fou. C'est pas juste... C'est comprendre un pays là où on est tombé, on a besoin d'aller creuser dedans, donc d'en chercher
plus,
tous les mots.
D'en faire plus.
Et c'est très amusant. Je vais faire une annonce pour en plus un écrivain qui va être là. Je suis en train de lire le magnifique livre de Guy Bollet, qui s'appelle « Quand Dieu boxait en amateur ». Et là, dans les premières pages, effectivement, son père, amour du dictionnaire, qui va chercher des mots. Et à un moment, il dit cette phrase qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que, à part le père et des étrangers, personne n'était obsédé par les mots français comme son père. Et il note comme les étrangers. Et c'est vrai qu'on a cette espèce d'obsession du mot juste, de la virgule à la bonne place, parce qu'en vérité, c'est une langue vraiment dure. Et quand on l'a compris, c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, les exilés parlent un français magnifique.
Ou un latin parfait.
Ou un latin parfait, mais ça, c'est pas mon cas. Hein. J'ai perdu tout mon latin.
Ça, c'est le français d'avant-avant-avant-hier. Mais ils sont bien là. De votre côté, Estelle Sarabulle, on l'a évoqué, le créole est extrêmement présent. Donc, on assiste à des expressions, hein, qui sont vraiment des phrases qui sont retranscrites, parfois des tournures, parfois des verbes que l'on devine, peut-être parfois par leur sonorité. Je vous lis ce passage pour vous donner un petit peu la musique du roman d'Estelle Sarabulle. Maintenant, écoute un peu de quoi j'avais l'air. Tu sais que les falbalas et les macaqueries de donzelle, ce n'est pas mon affaire. Du moment que j'ai un vêtement convenable sur le dos, ça me suffit. Mais je dois bien dire que j'ai toujours vu de l'envie dans les yeux des hommes comme des femmes au sujet de mon corps. Tu me vois maintenant, la tête blanche mais encore vaillante, et tu te dis que j'ai la peau lisse malgré le lot d'années que je porte sur mon dos. Alors imagine comment j'étais à 16 ans. À l'époque, ma seule référence en matière de beauté, c'était Eulalie. Et je ne lui ressemblais pas. Jamais je ne me serais considérée comme une jolie fille. Pourtant, je commençais à entendre que j'étais une belle petite femme. Même les tantes Ézéchiel le disaient à papa. Le dimanche après la messe, il y avait depuis quelque temps un essaim de garçons qui zonzonnaient autour de moi, comme autour d'une pomme cannelle en train de mûrir. Voilà ce passage pour évoquer la présence du créole, comment il matine, comment toutes les phrases sont plus ou moins teintées à des degrés divers. Une langue très orale qu'on peut se surprendre à comprendre quand on la prononce à voix haute, justement. Quand vous verrez les phrases écrites, c'est un peu étrange, si vous ne parlez pas du tout le créole comme c'est mon cas, mais à voix haute, les sonorités finalement sont plus lisibles. Cette oralité justement de la langue, est-ce qu'elle vous a guidé au point de lire aussi vos phrases en français à voix haute ?
Oui, effectivement, quand j'ai écrit, j'étais très attentive à la musique et au rythme que ça pouvait rendre. Donc je lisais à voix haute tous les passages que j'écrivais pour voir comment ça rendait. Et je pense aussi que ça vient du fait que, comme je ne le maîtrise pas, ce créole, finalement qu'il est comme une musique que j'ai entendue, je le retranscris à ma manière. C'est-à-dire que faut pas croire que la façon dont je parle dans le livre, c'est la façon dont parlent les Antillais. Ils auront sans doute d'autres expressions. Moi, c'est un peu un créole réinventé, absorbé, régurgité à ma manière. Et mon éditrice, Liana Lévy, parlait du fait que souvent, les gens qui venaient d'ailleurs, les exilés, ou voilà, qui ont des racines un petit peu hors de France, ont une langue fantôme en eux. Et moi, c'est un peu ça. C'est une langue fantôme qui me parle et que j'ai essayé de retranscrire au mieux. et qui est très oral sans doute parce que c'est le créole, c'est quelque chose que j'ai entendu, donc qui est très oral et que j'ai retranscrit à ma manière.
Donc du coup, vous parlez, vous lisez, vous relisez vos textes, est-ce que vos phrases pour atteindre l'équilibre, est-ce que c'est un juge peut-être presque physique de l'équilibre atteint, de la musicalité atteinte?
De la musicalité atteinte, y compris dans les passages qui ne sont pas en créole, parce que
c'était voilà. Ma question sur la langue, les phrases qui sont plus classiquement françaises.
Voilà, tout
c'est
à
aussi,
fait.
C'est aussi présent. Il y a un autre élément qui vous lie, c'est ce petit frère. Qui est l'oncle et le tout petit frère qui naît alors dans des
on ne se connaissait pas hein, c'était pas fait
voilà mais du coup il y a dans les deux romans, vous verrez si vous les lisez de manière simultanée ou proche, ces petits frères chez vous Abnous, ce petit frère apporte quelque chose d'un peu magique, d'un peu merveilleux.
Oui. Oui.
D'abord sa mère est enceinte de lui 13 mois, elle est enceinte de 9 mois de... alors tout se passe bien, hein. Puis à un moment donné, elle en était à son 10e mois de grossesse, donc là, je commençais à me dire que l'éditeur a laissé passer un truc, et puis on continue, puis elle est enceinte de 13 mois, allons-y, pourquoi pas 13 mois, et puis il naît donc dans des conditions un peu rocambolesques qu'on ne va pas dévoiler, parce que ça, c'est une des scènes particulièrement fortes de votre roman. Qu'est-ce que vous lui avez confié à ce tout petit frère, qui est à la fois tout petit, surdoué et un peu magicien?
La littérature hors le 19e français, ce que je préfère, c'est le réalisme magique. Donc Gabriel Garcia Marquez, Rushdie, Irving. Enfin, voilà. Dès que ça décolle un peu de la réalité, je respire. Et effectivement, il fallait que ce tout petit frère, pour moi, je l'écris comme étant... il a l'exil dans la peau. Il a été conçu en Iran, accouché en France. Sa peau, son sang, sa manière d'être, tout est tissé d'exil. Donc il fallait qu'il soit exceptionnel, il fallait qu'il soit aussi le vengeur de la mère qui est un personnage, qui est ce genre de femme capable de rendre toute laideur magnifique, qui est une magicienne avec ses mains, qui apporte mais vraiment réellement la magie au milieu des misères de l'exil. Et c'est son tout petit-fils qu'elle adore. Et je sais pas, l'idée qu'un enfant de 11 ans puisse empoisonner toute une famille me plaisait à la base. Je trouvais que voilà, c'est dans cette histoire de famille de reproduire les tragédies familiaux, il me fallait quelqu'un pour couper. Et je me disais, cet enfant de l'exil, qui est absolument et définitivement exil, il n'y a que lui qui, au final, peut casser une espèce de traumatisme familial qui, parce qu'à un moment, dans la deuxième partie, elle découvre, la narratrice, le passé de ses grandes-tantes, de là où elles sont issues, une sacrée armée, donc toujours de femmes, qui sont très impressionnantes, très magiciennes, très, très dangereuses. Et le petit frère est là pour casser le cycle d'échecs, de violence, même de pouvoir. Et je voulais absolument que ça soit un enfant. Parce qu'il le fait, j'allais dire, il tue quelque part en toute innocence. Il tue comme un enfant de 11 ans pour tuer parce qu'on a fait mal à sa maman. Et voilà. Et c'était en plus une manière de marquer. C'est lui, ce personnage, qui porte le réalisme magique. Et comme dans ma tête, l'exil, c'est une épopée, c'est une aventure. Ce personnage-là est peut-être celui qui dit le mieux, peut-être l'exil.
Alors, pour faire le lien avec ce tout petit frère, et l'heure avance, j'aimerais encore en parler de plein de choses, mais on va s'arrêter sur cette image-là avant de passer à une autre question. Je vais lire ce passage et vous allez évoquer cette scène qui est particulièrement marquante, je trouve, à la lecture. Maman est morte en janvier 1947. Elle était encore tombée quelques jours plus tôt. Comme le médecin ne se déplaçait plus, papa l'avait emmenée à Pointe-à-Pitre en car. C'était un car forfaitaire, comme il disait. Un coup, il venait, un coup, il ne venait pas. Il fallait attendre longtemps sous le soleil de midi. Maman ne tenait plus sur ses jambes. Je me souviens qu'Hilaire l'a soulevée comme un paquet et l'a jetée sur son épaule. Sa tête ballottait de droite à gauche sur le chemin. Il a avancé comme ça en portant maman sur son dos jusqu'à ce que le car arrive en crachant et s'arrête pour les faire monter. Ils sont revenus le soir de la même façon. Elle n'ouvrait plus les yeux. Des tantes et des voisines sont venues la veiller. Nous, les enfants, on se tenait en retrait. Lucinde pleurait en silence. Papa avait fourré une doucelette dans la bouche de petit frère qui courait autour de lui. Quand elle est morte, j'ai vu son ventre se soulever deux fois, comme si le bébé tentait de sortir. Je m'arrête là, la scène est encore plus longue, mais cette image-là est extrêmement visuelle, extrêmement forte. D'où est-ce que vous l'avez inventée? Est-ce que c'est un récit de famille? Est-ce que c'est une image que vous aviez, une histoire, une légende?
Alors pour le coup, c'est un récit de famille. Il y a vraiment, ça s'est passé comme ça. Ma grand-mère est morte enceinte. Et donc, forcément, ces enfants qui étaient là autour et qui étaient jeunes ont tous été marqués. Et encore une fois, ils n'ont pas tous été marqués de la même façon. Donc l'aîné qui avait à l'époque 13 ans, voir ça, c'est voilà, elle prend ça de plein fouet alors qu'elle rentre dans l'adolescence. Ça explique sans doute peut-être son rapport aux hommes, à la maternité qu'elle refuse totalement. La seconde à 9 ans, donc on peut imaginer qu'elle est très très marquée aussi, mais d'une autre façon, puisqu'elle, après elle va faire des enfants, mais elle va toujours ressasser cette histoire, elle me l'a racontée bien des fois, sans doute en exagérant, moi j'y étais pas, mais bon, j'imagine que dans les yeux d'un enfant de 9 ans, voir sa mère mourir comme ça, ça doit prendre des proportions énormes. Et puis le petit frère, finalement, qui avait 3 ans à l'époque, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'appelle toujours petit frère, c'est-à-dire que lui, il y a une espèce de traumatisme qui s'est passé au-dessus de sa tête, et il était là, mais c'est comme s'il n'en était pas vraiment témoin, puisqu'il n'avait que 3 ans. Donc lui-même, en fait, ne le connaît que par les récits qu'en ont fait ses sœurs. Donc c'est vrai qu'elles, elles acquièrent peut-être leur prénom, parce qu'elles sont passées par cette épreuve très marquante, qui les a sans doute fait basculer de l'enfance à l'âge adulte plus tôt qu'il n'aurait fallu. Alors que lui, finalement, il l'a vécu, mais en restant vraiment dans l'enfance. Il a eu cette chance-là.
Alors, une grande partie de votre roman se passe, bien sûr, sur l'île de la Guadeloupe, donc à Basse-Terre notamment, à Morne-Galante. Et puis, une autre partie se passe en France, notamment portée par la narratrice, par la nièce. Est-ce que vous aviez le sentiment, avec ce roman, de combler une part de l'histoire assez méconnue de l'immigration antillaise, guadeloupéenne, caraïbe, notamment avec ces émeutes de mai 67 qu'on ne connaît pas, hein, qui ont donc encourager certains à quitter leur pays. C'est mai 67, donc c'est un an avant notre mai 68. 8 morts quand même pendant ces émeutes qui sont parties d'un mouvement ouvrier. Et puis il y a cette phrase très forte pour vous inviter à parler de ce point-là, de l'immigration caraïbe et antillaise. Le petit frère, donc le père, qui dit « Je dirais qu'en métropole, nous sommes devenus noirs vers 1980, à partir du moment où avoir du boulot n'est plus aller de soi. » Ça, ce sont des phrases sur lesquelles on s'arrête pour se dire, effectivement, les gens sont devenus noirs à partir du moment où il y avait moins de boulot.
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, là, c'est petit frère qui parle, et lui, son arrivée en métropole, ça a été vraiment pour lui une libération. Il s'est un petit peu affranchi de ses deux grandes sœurs, très présentes, très puissantes, qui l'ont élevé, puisque sa mère était morte quand il était trop jeune pour s'en rendre compte. Et donc, l'arrivée en métropole correspond pour lui à l'arrivée à l'âge adulte et enfin pouvoir voler de ses propres ailes. Donc, les années 60, c'est une période assez lumineuse pour lui et même pour ses sœurs. C'est le plein emploi en France. C'est justement le moment où on fait venir beaucoup d'Antillais parce qu'on manque de main-d'œuvre en France. Alors, eux, en plus, non seulement ils sont jeunes, ils sont disponibles, mais ils parlent déjà le français. Donc, c'est vraiment de la main-d'œuvre rêvée. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Antillais encore maintenant dans les administrations. Ils sont venus via un système qui s'appelait le Bumidom, et voilà, dans les hôpitaux, à la RATP, à la Poste, ils ont trouvé du travail. Donc tout allait bien. Et puis finalement, premier choc pétrolier en 73, deuxième choc en 79, récession. Là, ça devient beaucoup moins lumineux. Et ben, finalement, comme tout le monde devient précaire, souvent quand on est précaire, on tape sur plus précaire que soi, et on finit par trouver des distinctions là où on n'en voyait pas spécialement avant. Donc c'est vrai que quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une crispation, je pense, de la société française par rapport à l'arrivée comme ça de gens qui s'est fait sentir au moment où le travail est allé moins de soi.
Était moins réparti et moins distribué. Un autre aspect de votre roman, Abnos Chalmani, c'est son humour. On rigole beaucoup, et ça moi j'aime beaucoup rire, et je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à atteindre en littérature, c'est faire rire les lecteurs, c'est quand même pas évident. L'un des aspects de cet humour est notamment traité à travers le film des valseuses. La famille de Chirine, et Chirine notamment, découvre les valseuses. Je ne résiste pas, même si l'heure a déjà un tout petit peu tourné, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage. Les valseuses commençaient quand mon père me mit dans les mains un dictionnaire franco-persan. Mais ma surprise, mon embarras et ma fascination ne laissèrent aucune place au vocabulaire. Quant à la famille, elle appliqua une méthode dont elle était coutumière, faire comme si de rien n'était. Me sortir de la pièce, ça aurait été admettre qu'il y avait à l'écran quelque chose qui n'était pas de mon âge. Ils ne savaient pas à quel point j'avais dépassé mon âge. Nous sommes ainsi restés devant le film et le porno du grand-père perdit définitivement son pouvoir d'attraction-répulsion. Avec des bites et des cons, des orgasmes en voiture, un suicide par le vagin, un viol dans un train, beaucoup trop de seins et de cul, les valseuses fit entrer les mots et le rire dans le sexe, lui rendant sa juste place, celle du plaisir et de la liberté. Les valseuses désamorça le drame de la chair sans désir, créa le lien qui me manquait, donna un sens aussi absurde fut-il à toutes les laideurs, toute la violence, toute la grossièreté des rapports humains. Voilà ce qu'était la France, à poil et en voiture. Le contraire de l'immobilité et de la prison de l'exil. Fascinant et salutaire, j'étais sauvée. Les autres étaient hostiles à ce film. Avant même qu'il ait commencé, c'était le choix de mon père, El Diablo. À la fin, Mitra et le Chinois se tournèrent vers ma mère en la fusillant du regard, et ma pauvre mère, plus surprise qu'eux, elle n'avait jamais couché qu'avec mon père et je la soupçonne même de n'avoir jamais ouvert les yeux pendant l'amour, ne sut pas comment réagir, soucieuse de ne pas me choquer davantage. Mon père estima qu'il n'était pas tout à fait idiot d'expliquer cette suite ininterrompue de sexe à une enfant de presque 9 ans. Il me raconta le film avec des mots simples, m'expliquant qu'il s'agissait de cinéma et qu'un réalisateur décidant de raconter l'histoire d'une femme qui ne sait pas jouir n'était pas différent des réalisateurs qui racontaient l'histoire d'un officier anglais qui se prenait pour un prince arabe. C'est Laurence d'Arabie, autre film culte de la famille. Je fus ravie de savoir que la jouissance valait la gloire politique. Mitra et son diplôme de psychologue se levèrent, la tête haute couronnée de morale gluante, et quittèrent la pièce. Ma mère déversa sur mon père un flot d'insultes silencieux et le Chinois prit un livre dans la bibliothèque pour se donner une contenance, sans doute le manifeste du Parti communiste qu'il avait oublié de lire. Et c'est ainsi que Les Valseuses fit son entrée dans la liste des films qui m'apprirent à faire la vie, même si je ne découvris que Les Valseuses étaient synonymes de couilles que quelques 20 ans après le premier visionnage. C'est long de devenir français.
Et ça, c'est vrai, les valseuses, j'ai appris 20 ans après ce que ça voulait dire.
Comme beaucoup, hein, comme beaucoup.
Comme
on
beaucoup,
est là sur une valse, a priori,
ça
une valse, rien de...
absolument voilà. Traumatisme, mais je courais partout en disant à tout le monde, mais tu sais ce que ça veut dire, les valseuses? Et visiblement, tout le monde était au courant, mais on avait oublié de me le dire.
Cet humour-là, vous oui. y tenez, j'imagine, beaucoup, parce que quand vous évoquez l'exil et loin d'être dans le chagrin, la nostalgie, la tristesse, il y a de l'humour aussi. Comment est-ce que vous les travaillez, ces scènes? Est-ce que vous leur accordez une attention particulière? Est-ce que le rythme, à ce moment-là, est vraiment, doit être impeccable pour que le rire du lecteur puisse advenir?
Oui, c'est les scènes, mais c'est comme tout. Hein, c'est comme un film, une comédie, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'un drame. C'est vrai que c'est les scènes où j'ai passé le plus de temps, parce qu'en plus, on a un humour familial qui est très comme ça. Et c'est vrai que dès que... Enfin, ça, c'est l'humour vraiment particulièrement de mon père qui horripile ma mère. Mais ça, je crois que je suis la fille de mon père, visiblement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu une tragédie dans notre vraie vie, dans notre vie réelle, il y avait toujours une blague qui fusait. Ça durait peut-être que 5 minutes, mais il y avait 5 minutes de légèreté. Et ben, après 5 minutes de légèreté, c'est beaucoup plus facile d'attraper le drame et de dire « Regarde-moi dans les yeux, tu vas voir ce que je vais te faire. » Donc ça, je pense que je l'ai gardé, moi, dans ma propre personnalité. Après, c'est l'enfer absolu à... C'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que là, une scène comme ça, je l'ai écrite 3-4 fois, parce que bon, je partais du principe que tout le monde connaissait les valseuses, mais quand même, c'est rappeler ce que ça fait à une gamine de 8 ans et avoir un enchaînement... Un peu drôle, mais oui, je trouve que ça, de toute façon, je crois que je peux pas ne pas être drôle dans la littérature, parce que je refuse de me prendre au sérieux, mais je prends la littérature très au sérieux et je trouve qu'on fait passer énormément de choses avec l'humour, et que l'humour, c'est aussi la politesse du désespoir, donc c'est important.
Merci beaucoup, merci pour ces paroles. L'heure a tourné, peut-être que parmi vous, certains ont envie de réagir ou de poser une ou deux questions. On a un tout petit moment, si vous voulez juste... faire signe, lever la main, vous emparer du micro qui peut vous être tendu. Alors, un monsieur là-bas, mais je ne l'ai pas vu. Alors, on prend votre question, monsieur.
Bonjour. Ce n'est pas une question, c'est une observation, une réflexion du patient débat que nous avons eu. Il y en a un qui concerne notre amie antillaise et l'autre notre amie iranienne. Pour la personne... antillaise, je rappellerai que la lecture qu'elle fait de son livre à elle-même me fait penser à Gustave Flaubert avec le gueuloir dans Madame Bovary.
Absolument, le gueuloir de poche.
Et en ce qui concerne la irénienne, j'ai appris maintenant ce que c'était que Les Valseuses, film que j'ai vu il y a 45 ans.
Merci pour votre observation. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole souhaitée? Oui, devant s'il vous plaît, si le micro peut revenir à l'avant sur ma gauche. Levez bien le bras, madame, pour qu'on puisse vous voir.
Merci. bonjour. Alors, j'ai lu vos deux romans que j'ai beaucoup appréciés parce que vraiment, c'est l'écriture, elle est magnifique pour tous les deux. L'humour, ça m'a, moi d'habitude qui ris pas facilement, ben, j'en ai eu. non, c'est vrai. Alors, par contre, le titre, voilà, Les exilés meurent d'amour, je l'ai trouvé magnifique et il correspond vraiment à ce que vous avez raconté. Ben, alors, Estelle, merci d'avoir expliqué votre titre. Parce que là, ça restait en travers. Je me disais, mais ça n'a pas de rapport avec son beau livre. Mais maintenant, j'ai compris, voilà pourquoi. Et merci beaucoup, parce que merci, vos madame. Deux livres sont très, très bien écrits. Et continuez. J'espère que vous êtes en train d'en écrire un autre. Voilà.
Merci.
Merci, madame.
On espère aussi. Alors, comme l'heure tourne, à moins qu'il y ait vraiment une question... Non, je vous propose de conclure. Je vais vous lire deux tout petits passages pour finir. Il a été d'exil... Question d'exil, pardon, tout au long de cette rencontre, sans qu'on en parle vraiment dans la précision, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à aborder, mais je voudrais finir sur ces deux passages de lecture. Vous souhaitez les lire ? Comme ça, on peut... Donc, c'est celui-ci pour vous, et c'est Estelle qui va commencer, Estelle Sarah. Alors, ce passage-là, moins ça, avec ça.
Alors, attendez. Donc, ça...
Ça commence là, ça s'est barré, et ce petit passage jusque-là.
OK.
Voilà, pour conclure.
C'est le petit frère qui parle. Nous avons fait ce que nous avons pu pour nos enfants. Nous avons quitté notre île et nos parents. Rapidement, il n'a plus été question de revenir. Cette banlieue, que tu hésites à aimer ou détester, a été notre place, l'endroit de l'oubli et de l'indifférence. Une indifférence libératrice. Nous étions d'accord pour venir ici. Tu peux bien dire que j'ai quitté un nulle part pour un autre nulle part, mais je m'y suis fait. Bien sûr qu'elle est vide, cette banlieue, avec son paysage de science-fiction, ses façades opaques et tout cet aluminium qui renvoie à l'infini les lumières crues de l'hiver, 8 mois sur 12. C'est de tout cet espace que j'ai besoin pour loger le sang et les larmes que je ne verse pas.
Il est impossible de pleurer la nostalgie. C'est l'hymne national de l'exil. L'exil est une identité, un langage, un passé sans avenir. L'exil est une île où se retrouvent tous ceux qui n'ont ni le visage du pays natal, ni celui du refuge. Ceux qui sont trop vieux pour oublier et pas assez jeunes pour se fondre. Ceux qui restent toute leur vie sur une île qui flotte, sur des océans qui ne leur appartiendront jamais.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. L'exil
merci
est
beaucoup.
Une île.
Merci.
Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je rappelle donc les titres. Estelle Sarabulle, Là où les chiens aboient par la queue, aux éditions Liana Lévy. Je crois qu'Liana Lévy est parmi nous. Un petit bonjour si elle est là. Et puis Abnous Chalmani, Les exilés meurent aussi d'amour. C'est aux éditions Grasset. Bonne lecture. Les livres sont bien sûr disponibles grâce à la librairie Le Poivre d'Âne. Faites-vous ce plaisir-là. Bon après-midi.